Dictionnaire de la sagesse ancienne avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Bonjour David.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors je tiens à préciser que c'est dorénavant Dominique qui animera l'émission avec moi.
Au cours de cette heure, nous allons discuter de l'esprit, l'esprit la plus indéfinissable des notions qu'il soit. Dorénavant, dans les émissions, nous traiterons un seul thème par émission et nous essaierons de l'envisager sous plusieurs angles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'indéfinissable, la notion indéfinissable qui est l'esprit. Nous allons l'aborder par les différentes significations qu'on peut avoir dans le sens commun, hein, parce que tout le monde peut parler de l'esprit, tout le monde a une idée de ce qui est l'esprit. Ensuite, nous regarderons plutôt la dualité esprit-matière. On parle souvent de cette dualité esprit-matière, ou bien alors la triplicité âme-esprit-matière. Dans la dernière partie, nous parlerons de l'esprit en tant qu'expression divine, donc son sens le plus profond. Alors David, en première partie, de quoi peut-on parler de l'esprit dans les sens ordinaires? Le psychisme ordinaire?
Oui, c'est le premier sens le plus courant, hein, quand on dit perdre ses esprits, retrouver ses esprits.
Je m'évanouis,
c'est intéressant, d'ailleurs on met parfois des pluriels et on va voir que c'est assez intéressant cette notion de pluriel. Mais l'esprit, on peut dire de façon ordinaire qu'on entend par là nos facultés affectives, sensibles, imaginaires, mêlées ou pas aux facultés mentales, intellectuelles, discursives. Donc l'esprit c'est un ensemble et c'est parfois même un petit peu l'expression de la personne elle-même, son esprit.
C'est ce qui est derrière la personne qu'on voit, c'est ce qui anime la personne qu'on rencontre.
Voilà, on parle de tournure d'esprit, d'esprit d'humour chez certaines personnes. Voilà, c'est une notion assez vague, mais on comprend que ça concerne l'univers de la personne, de la personnalité, essentiellement donc l'aspect mental, émotionnel, et aussi quand on dit perdre ses esprits, là on est bien dans une dimension physique, c'est-à-dire que la conscience est retirée du corps momentanément. Donc on voit que c'est vraiment... En gros, le mental, l'émotionnel et la sensation, le vécu du corps.
Alors, il y a aussi les fantômes, les esprits des chamans.
Alors là, on rentre déjà dans une utilisation beaucoup plus particulière du mot esprit. On pense aux fantômes, aux esprits, comme tu le dis, des chamans. Alors, pour expliquer, là, voilà, les chamans, ce sont ceux qui, dans les traditions donc chamaniques, c'est-à-dire les traditions qu'on trouve beaucoup en Asie du Nord, vers la Sibérie par exemple, un petit peu partout en Orient et aussi en Amérique, l'Amérique du Sud notamment, la Mésoamérique, donc les autochtones on entend, hein, ceux qui avaient ces traditions-là. Donc il y avait ce culte des esprits qui était rattachée un petit peu aux manes, on disait les manes chez les Grecs ou alors chez les Romains, hein, c'est-à-dire les ancêtres. C'était l'idée que quand on mourait, un esprit désincarné perdurait, ou en tout cas une forme de rémanence, d'empreinte.
On est toujours l'idée que derrière ce qu'on voit de la matérialité, il y a autre chose qui est là et qui apparaît après la vie, qui reste après la vie.
Voilà, c'est une empreinte. Alors d'un point de vue ésotérique, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas en fait l'âme véritablement des défunts, mais c'est l'empreinte, c'est un reste quelque part des corps subtils. Hein, on a un corps, mais dans la sagesse ancienne, on considère qu'on a des corps subtils, un corps énergétique qui disparaît très vite après la mort, mais un corps qu'on appelle astral. Qui est notre corps affectif, émotionnel, le corps avec lequel on imagine, qui est juste en dessous du corps mental. Et c'est ce corps, parfois, qui demeure, cette empreinte, et mêlée ou pas avec le corps éthérique du défunt, parfois ce corps s'alimente d'énergie éthérique, énergie vitale, et on peut voir une forme de double, d'aura, et ça forme ce qu'on appelle les fantômes, c'est un petit peu une forme de rémanence, d'empreinte. Donc ce n'est pas une âme, contrairement à ce que croient les spirites. Et ça, c'est Madame Blavatsky, une ésotériste du 19e siècle, qui a bien fait comprendre ce mécanisme-là. C'est-à-dire, les âmes, elles, quittent leurs enveloppes, mais il reste des enveloppes suffisamment vitalisées. Et c'est ce qu'on appelle les esprits des médiums, les esprits que contactent les chamans. Et parfois, ce sont des sortes de formes pensées. Par exemple, tout le monde pensant à Napoléon, par exemple, il y a une forme pensée de Napoléon, une
Oui, il y
énergie.
a une forme pensée qui dit Napoléon est un grand homme qui a fait beaucoup de conquêtes et par exemple un spirit peut capter ça.
Voilà.
Alors, ils peuvent aussi capter des choses un peu plus complexes que juste Napoléon est un grand homme, mais c'est ils captent des pensées qui ont été construites par d'autres
Voilà,
personnes.
alors là on n'est même plus, on est dans un deuxième cas de figure, c'est-à-dire on n'est même plus dans le corps, dans l'empreinte qui reste de l'individu, qui finit cette empreinte, on appelle ça des coques astrales dans l'enseignement ésotérique. Ces coques-là, ces fantômes finissent par perdre l'énergie et se dissoudre. Alors que les formes pensées, elles, sont créées par tous ceux qui peuvent lire, par exemple, si on garde notre exemple de Napoléon, qui peuvent lire sur Napoléon, parler de Napoléon, entendre parler de Napoléon. Ça devient une entité à part entière, une énergie, et on peut contacter cette forme d'esprit. Mais ce n'est pas l'esprit de Napoléon, ce n'est pas son âme, et ce n'est pas forcément le reste de ces enveloppes subtiles, c'est vraiment quelque chose qui crée. Et qui peut parfois durer des siècles selon la force que l'on donne.
Donc il y a une grande illusion derrière les spirites, par exemple, qui croient parler à des personnages célèbres, ou bien à des maîtres de sagesse, ou bien à des grands anges.
Oui, ce sont souvent des contacts avec des facsimilés des maîtres ou des archanges, des grandes idées comme ça de. Lié à des grands êtres, ou alors il peut arriver que l'âme d'un défunt soit encore proche de la terre.
Oui.
Et à ce moment-là, il peut renseigner l'individu, le médium, ça arrive aussi, mais en général, à partir d'un certain temps, d'un certain moment, il est conseillé de ne pas retenir les âmes et de les laisser partir, et de ne pas non plus entretenir un contact avec les enveloppes, les esprits dématérialisés, on pourrait dire, les corps subtils astraux qui peuvent rester encore quelque temps. Donc voilà, pour résumer, on a notre esprit à nous, et cet esprit, bah, ce sont des corps subtils, mental, émotionnel, éthérique, qui sont liés à notre corps physique que l'on voit. Et après notre mort, une partie de cet esprit peut continuer de vivre. De ces enveloppes subtiles. Et ça finit par se dissoudre. Ou alors, on peut, si la personne est suffisamment connue, si elle rentre dans le monde des archétypes, hein, pour entrer dans le langage jungien, dans l'inconscient collectif, une idée, une forme pensée de quelqu'un, de quelque chose peut être nourrie.
Oui, c'est ça, l'inconscient collectif, en fait, c'est l'agrégat de toutes ces formes pensées, de tous ces esprits astraux, etc.
Voilà, c'est
Enfin, c'est notre bagage
commun.
hein, dans lequel nous pouvons puiser. Est-ce que maintenant on peut dire que aussi derrière, bon, on a vu l'esprit, c'est ce qui est caché derrière l'humain, il y a la même chose, par exemple, pour la nature, pour les arbres, la montagne, l'eau, la mer, les rivières. On parle souvent, on dit, il y a des esprits qui vivent dans la nature.
Alors tout à fait, et c'est un point clé de la philosophie ancienne, de la sagesse éternelle, c'est la doctrine on dit hylozoïste ou animiste tout simplement. C'est l'idée que tout corps, toute expression matérielle est habitée par une intelligence, une forme de conscience à un niveau ou à un autre.
Alors ça, quand même, on n'a pas l'habitude parce que on voit, je sais pas, ce mur, cette table. Bon, on a l'impression que c'est mort, ça ne vit pas, ça ne se reproduit pas. Les arbres, on sent tout de même qu'il y a une vie, mais de là à parler d'esprit.
Alors en
Parce
fait, il
que
faut pas.
esprit, ça veut dire qu'il y a un dessein derrière tout ça, c'est qu'il y a, comment dire, quelque chose qui a une sorte de volonté d'exister,
Alors ce qu'il faut, c'est ne pas anthropomorphiser, hein, ce n'est pas projeter notre humanité dans ces formes d'esprit-là. Donc là, on parle des esprits de la nature. C'est l'idée qu'en effet, derrière les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, et tout ce qui constitue le vivant, il y a donc des particules, et ces particules sont le corps d'entité. Et l'ésotérisme stipule que ces entités sont non conscientes d'elles-mêmes. Donc c'est une forme de conscience rudimentaire. C'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas trop anthropomorphiser ces entités-là. Et bien sûr, plus on monte dans l'échelle de l'évolution, plus ces entités sont perfectionnées. Alors on voit la conscience d'un minéral, elle est beaucoup moins développée que la conscience d'un arbre, comme tu le
Oui,
disais.
donc c'est des formes de conscience, mais qu'il ne faut surtout pas anthropomorphiser comme nous. C'est-à-dire que nous, l'être humain, a la soi-conscience. C'est-à-dire que je suis, bon, il y en a qui disaient je pense, donc je suis. Mais le minéral, par exemple, il a sa conscience qui fait que ben, les atomes s'agrègent entre eux, ne se mélangent pas les uns les autres et existent de façon différenciée les uns des
Et il y a
autres.
un programme, on parlait d'archétype tout à l'heure, il y a un programme archétypal dans les pierres, et on le voit dans l'évolution des pierres, comme les diamants, on voit qu'il y a un programme, il y a une forme d'intelligence à créer ces structures aussi géométriques, aussi
À
parfaites.
organiser.
Donc on voit qu'il y a quand même une intelligence et une forme de conscience, peut-être rudimentaire de notre point de vue, mais qui existe réellement.
Oui, il y a une capacité de discrimination. C'est ça, la base de l'intelligence, c'est la discrimination.
Oui.
Parce que la matière, je veux dire, quand on a les protons, les neutrons, etc., tout ça, c'est une forme d'organisation. C'est pas, hein, il y a une structure. Donc c'est ça l'intelligence de la matière.
Oui, et il n'y a pratiquement pas de sensibilité dans les pierres, alors qu'on sait très bien que dans les plantes, donc on gagne un règne là, donc on a les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, et au niveau des plantes, on sait que les plantes commencent à avoir une organisation de système nerveux, donc il y a un début d'intelligence dans la plante, on sait que les plantes réagissent à la musique par exemple, elles sont sensibles, elles vont développer des couleurs, des parfums, donc on voit qu'au fur et à mesure, c'est encore plus vrai pour les animaux, surtout pour les animaux qu'on peut domestiquer, on voit qu'au fur et à mesure, la conscience grandit parce que la conscience dépend du véhicule à travers lequel elle s'exprime. Donc plus les véhicules vont être affinés par ces intelligences de la nature, plus la conscience globale de l'entité va pouvoir s'exprimer plus largement.
Donc, dans chaque arbre, dans chaque montagne, dans chaque cours d'eau, il y a on appelle ça des devas qui animent, qui purifient, qui font évoluer
Oui.
cet objet.
L'ésotérisme dit qu'il y a des entités qui construisent aveuglément, donc qui sont l'intelligence ou la conscience rudimentaire dans chaque atome, dans chaque particule, et qu'il y a parfois un grand Deva. Deva, c'est le terme sanskrit. Deva, c'est un être lumineux. C'est un grand génie, on pourrait dire. C'est un grand esprit de la nature qui, lui, peut se trouver sur l'arc évolutif et être pleinement conscient, même super conscient et très conscient, et être une sorte de chef, de dirigeant de toutes ces myriades de petites vies. Donc il y a parfois des grands devas, des grands anges, on pourrait dire, et des tout petits élémentaux qui, eux, sont sous la gouverne de ce grand deva, de ce grand ange. Donc on a les petits lutins, les gnomes, les ondines et autres peuvent être sous le contrôle d'un grand esprit de la nature, qui peut parfois habiter, je sais pas, une forêt entière, où on dit dans l'ésotérisme même qu'il y a un esprit général, donc un grand deva, qui peut contrôler tout l'élément hôte sur toute la planète. Donc c'est immense, quand on sait que la planète est composée à près de
Quand tu dis
70% d'eau.
contrôler l'élément eau, ça veut dire quoi? C'est la purifier, c'est contrôler l'évaporation,
Tout
le cycle de
ce que
la
l'on peut voir dans
pluie.
l'eau, toutes les entités qui forment l'eau, H2O, hein, toutes ces particules sont littéralement son corps.
Parce qu'on sait tout de même que sur la Terre, l'équilibre extraordinaire qu'il y a sur des millions d'années, c'est pas forcément fortuit et ça serait justement ces esprits et ces grands devas qui contribueraient à l'ajustement de tout ça pour que la vie puisse exister et prospérer.
Exactement, on a l'image avec un chef de chantier ou même un architecte. Alors, l'architecte, ça pourrait être la divinité de cette planète. Le chef de chantier qui dit, bon, bah, moi, j'ai cette maison, cet immeuble à construire, et les ouvriers qui vont construire et qui vont suivre les ordres. Donc, on pourrait dire que les petits élémentaux, ces petits esprits de la nature inconscients d'eux-mêmes, encore sur l'arc involutif, obéissent aux ordres de cette grande intelligence angélique, de ce grand esprit de la nature.
Voilà. Donc derrière tout ça, ce qu'on voit bien, c'est que la matière est vivante, elle est animée, qu'il y a un dessin derrière, et que finalement la Terre, enfin ce qu'elle est, elle n'est pas ça par hasard, hein. Et elle n'est pas là juste par la loi de l'évolution qui l'amène dans un sens, mais par un dessin, une volonté qui l'amène quelque part.
Oui, dans la sagesse des anciens, la matière morte n'existe pas. Et on parlait de la nature, mais il faut comprendre que nos corps sont tirés du substrat de la nature. Alors notre corps physique, ça va de soi. On sait qu'il est composé de solides, de liquides et de gazeux, un mélange d'air et de feu. Mais nos corps subtils dont on parlait tout à l'heure, le corps énergétique, éthérique, le corps émotionnel et même le corps mental, est également composé par des particules plus légères, plus subtiles, mais par ces mêmes éléments, ces mêmes élémentaux. Donc, on est un composé de matière plus ou moins subtile qui est tiré de ces grands réservoirs de force, d'énergie sur Terre. On n'est pas séparé de la nature, et c'est un petit peu le message des traditions anciennes de type animiste, chamanique. Nos pensées, nos émotions affectent l'environnement. L'environnement affecte aussi nos pensées, nos émotions, parce qu'il y a ces mêmes particules qui nous composent et qui composent le monde. Il n'y a pas seulement les choses que l'on voit, mais il y a aussi une ambiance émotionnelle dans un lieu, une ambiance mentale, et tout ça, ce sont des particules, des énergies vivantes.
Oui, on voit bien que quand on va dans une église, par exemple, c'est dans un endroit où on se recueille, on se sent différent. De toute façon, on ne se sent différent d'un endroit où, je sais pas, dans une boîte de nuit, même si on coupe le son de la boîte de nuit.
Voilà, il y a un esprit
Hein?
d'un lieu, on peut dire, il y a une atmosphère, ben, c'est un petit peu cette idée-là.
Pour conclure sur cette première partie, est-ce qu'on peut parler aussi d'esprit pour de grands êtres tels que les maîtres de sagesse?
Voilà, on les appelle en Inde les Mahatmas, c'est-à-dire les grandes âmes. On devrait traduire en fait par les grands esprits, parce que Atma, on va voir plus loin, c'est l'esprit, mais c'est l'idée que certains ne sont pas ont survécu, ne meurent plus et ne sont pas simplement des coques astrales, comme on disait, ou même des formes pensées collectives, mais vraiment des entités, des esprits purs, des monades pures. Et ces monades pures, on en reparlera en troisième partie d'émission, lorsqu'on abordera le mot esprit dans son aspect le plus métaphysique, le plus large.
Thank you. On évoque souvent la dualité esprit-matière. Dans le vrai sens des choses, il y a plutôt une triplicité esprit, âme et matière. D'une certaine façon, c'est lié aux différentes écoles de pensée. On sait qu'il y a l'école du matérialisme, hein, de la science, qui dit seule la matière existe. Il y a le modèle religieux avec une conscience suprême qui organise tout avec amour. Et il y a aussi les philosophes, les ésotéristes qui étudient l'intelligence et qui font en quelque sorte le rapport, la reliance entre les aspects religieux et matérialistes. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs, il y a une triplicité. Alors, la triplicité esprit-âme-matière, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, dans notre culture judéo-chrétienne, il y a cette triplicité. C'est surtout saint Paul, dans ses épîtres, qui a développé la notion de trois corps, hein, spiritus pour l'esprit, psyché pour l'âme, et le soma pour le corps. Et en effet, comme tu le disais, dans toutes les traditions, on retrouve cette triplicité et cette triade divine. L'idée, c'est que la triplicité, quelque part, incarne, représente en nous, reflète la triade. La triade divine, c'est-à-dire l'esprit va plus représenter le pôle père, donc le pôle premier, essentiel. On parle de monade aussi, d'étincelle divine, c'est la partie de nous qui est rattachée au père. Alors que la partie du fils, en langage chrétien, ou la partie secondaire, intermédiaire, on dirait Vishnu par exemple en Inde, et Shiva pour le père, Vishnu pour le fils, et Brahma pour l'aspect mère. Donc Vishnu, le Christ, l'aspect du Fils, l'aspect de la conscience, c'est l'âme. C'est le rôle intermédiaire entre l'esprit, comme tu disais, la matière, qui est sous la gouvernance de, on dit, du Saint-Esprit, ou de la Mère du Monde. Pourquoi Saint-Esprit? Parce que, en fait, chez les Hébreux, il faut savoir que le mot esprit était féminin. Donc quand on disait esprit, on l'identifiait avant à la mère. Hein, esprit en hébreu c'est féminin, donc quand Jésus dit qu'il ne faut pas pécher contre le Saint-Esprit, c'est le plus grand des crimes, c'est contre le Saint-Esprit, c'est contre la mère du monde, donc l'intelligence universelle qui crée les formes. Donc on a cette triplicité du Père avec l'Esprit, du Fils avec l'âme ou la conscience, et de la mère avec les formes, y compris la matière.
Moi, déjà, je vois que tu te réfères à plusieurs traditions. Hein. Tu parles d'ésotérisme, tu parles de traditions chez les hindous, judaïques, chrétiens. Et cette triplicité, elle existe dans toutes les traditions. Donc, c'est ce qui indiquerait une espèce de vérité profonde.
Voilà, c'est, on rentre peut-être justement, on touche là peut-être à un archétype fondamental des cultures. Alors la sagesse ancienne, elle est structuraliste dans le sens où elle accepte qu'il y a des structures, un monde des idées qui préexistent, et que en fait les religions, les traditions, même les philosophies, se penchent plus sur une idée plutôt qu'une autre. Mais en fait, si on a des idées comme ça récurrentes, c'est qu'elles préexistent, c'est que les choses sont structurées, c'est qu'il y a un monde archétypal, un monde des idées. On peut dire que la sagesse ancienne, c'est en quelque sorte l'étude de ce monde des idées.
Oui, donc cette structure qui est. On connaît une structure physique, hein, je veux dire les atomes, tout ça, c'est très structuré. Ça existe aussi dans les idées, dans les. C'est même pas des principes, parce que quand on parle de esprit, âme et matière, c'est la conception de l'univers, c'est les grandes. Je sais pas moi, c'est les grandes parties de l'univers, les grands constituants de l'univers. Et c'est vraiment une structure de fond, c'est pas une invention de l'homme qui imagine ça. C'est plutôt l'homme qui redécouvre une vérité profonde.
Oui, c'est la théorie des anciens par rapport à la théorie des modernes, c'est-à-dire que dans la théorie des anciens, on pense que les anciens, ou que les modernes pour vis-à-vis des anciens, les anciens ne font que redécouvrir le savoir, pardon, les modernes ne font que redécouvrir le savoir des anciens. C'est-à-dire qu'il y a constamment une même connaissance qui réapparaît cycliquement sous des formes, des vocables différents. Là, on va plus loin dans la science, on va plus loin dans la psychologie, mais est-ce qu'on ne retrouve pas sous d'autres mots, d'autres vocables, les mêmes concepts, les mêmes idées fondamentales. Cette triplicité, on voit toujours trois dieux comme ça, on voit plein de triades partout, hein, chez les Celtes, chez les Japonais, chez les Chinois, chez les Grecs, les Amérindiens. Enfin, c'est vraiment, c'est omniprésent. Et il y a donc, c'est intéressant que de voir que dans le christianisme, qui était une sorte de religion de synthèse, Paul était très instruit en sagesse grecque et païenne. Et en fait, il a quelque part incorporé cette triade du spiritus, de la psyché, du corps. Et donc, on a dans notre culture judéo-chrétienne cet aspect-là, donc dans notre culture religieuse. Au niveau scientifique, qu'est-ce que l'on sait? On sait que la psychologie va surtout s'intéresser à la part psyché. D'ailleurs, psychologie, c'est bien l'étude de la psyché, de la
C'est l'âme,
conscience.
ça.
Oui, c'est l'âme au sens large du terme, l'âme en termes de conscience. Alors l'âme, elle peut être réfutée ou pas selon les écoles psychologiques, qu'elle soit transpersonnelle, jungienne ou freudienne ou autre. Mais en tout cas, on analyse l'aspect conscience et pas l'aspect moléculaire, comme dans les
Oui,
sciences
donc
dures.
pour comprendre un peu les. Parce qu'il y a trois niveaux en fait, hein, c'est l'esprit, l'âme et la matière. Donc l'âme, c'est la partie conscience qui imprègne la matière.
Voilà. C'est ce qui nous permet d'être conscients. Alors conscient, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? D'être en relation. L'âme, c'est la médiation.
Moi, j'avais l'idée que l'aspect conscience, c'est ce qui met en relation avec l'extérieur, ce qui donne comment dire, une sensibilité à l'extérieur et qui permet d'interagir avec l'extérieur, c'est ça?
Voilà, on peut dire que c'est une sensibilité, mais à ce moment-là, au sens le plus large du terme, on pourrait dire qu'on a une sensibilité physique, les sensations proprement dites, qu'on a une sensibilité affective, sensible, imaginaire, c'est notre corps émotionnel. On a une sensibilité mentale au monde des idées, on réfléchit, mais il faut bien être sensible mentalement, il faut être conscient mentalement pour pouvoir
Oui, c'est bon.
formuler des pensées.
Parce que là, on est déjà dans la notion humaine où on a la soi-conscience, c'est-à-dire que je suis moi et puis il y a le moi et le non-moi.
Oui, et on a dans la sagesse ancienne, on part du principe qu'il y a une source de la conscience et c'est l'âme. Et c'est là un petit peu la différence avec la science actuelle. La notion d'âme est subodorée, elle est parfois rejetée, ou on sent bien qu'on essaye de voir s'il y a un centre de la conscience, par exemple aussi dans le cerveau. On sait que c'est dans la région diencéphalique, mais là encore, on reste proche du cerveau. Mais dans la sagesse ancienne, on part du principe qu'il y a une source de la conscience, qu'il y a une conscience pure, sans pensée, sans émotion, sans sensation physique, qu'on peut, par la méditation notamment, toucher cette conscience sans état psychique, on pourrait dire, mais une conscience
Oui,
pure.
c'est-à-dire que le matérialiste dit, ben, c'est la matière qui existe et après la matière vient l'âme, l'esprit, si on veut. Hein, c'est-à-dire que c'est la matière qui est à l'origine de tout, qui comment dire, par la sélection s'organise, devient intelligente. Et l'ésotérisme, dans sa plus pure, dans le sens le plus pur, dit, ben, c'est exactement le contraire. On a un esprit qui est, bon, on va en parler, qui commence à imprégner la matière, qui est à la source, à l'origine de la manifestation de la matière.
Oui.
Hein? L'âme vient avant le bébé qui naît.
Oui, l'âme cherche un corps pour s'incarner dedans, pour en prendre possession. Elle a besoin d'un cerveau, donc d'un corps, de molécules, pour s'exprimer sur le plan physique. Mais l'âme n'est pas conditionnée par le plan physique pour exister. C'est ce qu'on a vu aussi avec les corps subtils en début d'émission, hein. C'est qu'il reste des traces, des rémanences parfois, des coques, comme on avait dit, qui sont des restes. Des corps subtils, mais qui sont encore matériels. Mais l'âme, sur son propre plan, survit, vit d'une façon éternelle, quelque part, ou quasiment éternelle, parce qu'on va voir qu'elle peut réintégrer sa source, qui est la monade, l'esprit, l'étincelle, la vie pure.
Tous ces points de vue, esprit, âme et matière, sont également divins. On ne peut pas dire qu'il y en a un
Non,
qui est plus divin que
tout à
l'autre, hein.
fait.
Le divin, c'est le tout, hein. C'est le
Voilà, c'est
tout et.
ce qui est transcendant, c'est ce qui est également immanent. Donc on a vu que ce qu'on appelle matière, c'est la manifestation de la mère du monde, du troisième pôle de la divinité. On a vu que toutes les formes de conscience, tous les niveaux de conscience d'un niveau du plus bas jusqu'au plus haut, c'est l'aspect du Fils, l'aspect âme de l'univers, l'âme universelle. Et tout ce qui est à l'origine de la conscience et de la matière elle-même, c'est l'aspect vie. Et c'est ce qu'on va voir en troisième partie d'émission, c'est la la vie en tant que source de toutes les énergies.
Alors, on dit l'esprit imprègne la matière. Ça veut dire que des fois, je suis trop pratique. Je vois la matière qui existe et l'esprit qui arrive et pas tout à fait
Non,
comme
c'est
ça
une
que ça
façon
se
de parler en
passe.
fait.
Oui.
C'est une façon de parler. Il y a en fait, on pourrait dire qu'il y a une seule énergie et qui involue, qui se dégrade ou qui s'abaisse en termes de fréquence vibratoire. Et on peut dire que l'esprit, c'est l'énergie à son stade le plus haut. Et quand l'énergie s'abaisse en fréquence, descend, on va appeler ça la matière dans nos mots. Et on peut dire que la matière, c'est l'esprit dans son sens le plus bas. Et que après, dans l'évolution, la matière se raffine, se spiritualise. On dit bien spiritualiser, spiritus, esprit, qu'elle rejoint son pôle esprit. Et que là, on pourrait dire que l'esprit, c'est la matière à son sens le plus élevé. Ça, c'est une phrase de Madame Blavatsky, une grande occultiste.
Oui. Donc en fait, on ne peut pas avoir de la matière sans esprit, de l'esprit sans la matière, je ne sais pas, dans certains plans, à certains endroits. Mais donc, il y a tout. C'est comme un arc-en-ciel, quoi. On voit une lumière blanche. En fait, c'est on la décompose en plusieurs couleurs, mais on voit une lumière blanche. C'est une lumière blanche qui existe. Les trois couleurs existent en même temps. Donc, c'est la même chose pour l'esprit, l'âme et la matière. Je veux dire que tous les trois sont là, présents à un instant donné.
Voilà, si on voit l'esprit, la matière, alors le langage crée des catégories. Donc si on les sépare d'un point de vue du point de vue du vocabulaire et de ce que l'on peut voir, on voit surtout la matière, on voit pas forcément l'esprit. Et entre, il y a cette conscience qui nous permet de relier la part la plus subtile en nous, l'esprit, à la part la plus dense, matière, il y a cette conscience. Et la conscience nous permet autant de nous tourner vers la matière et d'être conscient du monde extérieur, mais la conscience peut nous permettre aussi de nous tourner vers ce qu'il y a de plus profond en nous, immatériel, le monde de l'esprit.
On voit bien que parce qu'on parle de matière, donc les gens qui sont complètement matérialistes, qui ne pensent qu'à gagner de l'argent, avoir des yachts, etc. Donc ce sont des gens qui sont complètement coupés d'une partie de la réalité, en fait.
Une partie de leur réalité intérieure, oui. Ils pensent que le bonheur et la satisfaction des sens va tout leur offrir et que la conscience, s'ils sont conscients d'eux-mêmes, elle vise l'obtention de ces biens pour être heureux. Mais même être heureux, c'est chercher à manifester des désirs. Et dans les désirs, on voit qu'on est déjà dans le domaine du psychisme pur. Donc les biens sont censés amener un état intérieur. Donc on voit que l'homme ne peut pas s'extraire de sa conscience. Même le matérialiste a une forme de conscience à lui.
Oui, qui n'est pas très élevé, mais il a effectivement
Il
la
recherche le plaisir.
matière toute seule n'aurait aucune volonté.
Non.
Hein, je veux dire, on n'irait pas passer toute sa vie à faire des efforts pour soit devenir, soit s'élever spirituellement, soit s'élever dans une hiérarchie d'individus.
Bien sûr, ce qui est spirituel, en fait, c'est si on est tourné, parce qu'il y a des individus qui sont plus tournés vers le pôle matière et d'autres plus vers le pôle esprit. Pour ceux qui sont plus tournés vers le pôle matière, ces gens-là doivent donner un sens à cette matière. Faire en sorte que cette matière révèle le bien, le beau, le vrai, pour reprendre des termes
Oui.
platoniques.
En fait, les gens qui sont complètement matérialistes sont dans l'illusion la plus totale.
Mais on peut dire aussi que ceux qui sont extrêmement mystiques, dits spiritualistes, peuvent être aussi dans l'illusion la plus totale en refusant leur incarnation, en refusant de rencontrer cette matière, de la rendre belle, de la transformer, de la mettre au service du plus grand nombre, d'une façon
Oui,
juste.
donc en fait, donc nous sommes dans cette triplicité et nous vivons avec.
Oui.
Hein? Pour cette troisième partie, nous allons parler de l'esprit. Alors l'esprit 1, l'esprit unique, l'esprit qui est à la source de tout. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, comment peut-on parler de quelque chose qui est indéfinissable? Puisque si c'est à la source de tout, nous ne sommes que le résultat de cet esprit, donc nous ne pouvons pas facilement remonter à notre source.
Alors, quand on replace dans la Trinité judéo-chrétienne, surtout chrétienne dont on a parlé précédemment, on avait l'esprit, l'âme et le corps. Donc la conscience pour l'âme, on a compris, le corps, on comprend aisément. Donc qu'est-ce que c'est que cet esprit? Alors on va dire, ce n'est ni la conscience, ni la matière, ou toutes les formes de matière, même les substances très très subtiles, hein, qui sont des formes de matière, on va dire, hein. Donc c'est quelque chose qui est la source de la conscience et de la matière. Donc c'est une vie. Et c'est très difficile pour nous, comme tu le dis, parce que quand on pense à la vie, on pense toujours à la vie dans la forme. On dit que quelque chose est
Oui.
vivant quand il bouge, quand il parle, quand il s'exprime, parce qu'on ne
Ça,
voit pas la vie.
quand il se reproduit, oui.
Parce que la vie ne peut pas être vue. Quand on voit quelque chose, quand on entend, on est dans la vie à travers la forme. On est dans la manifestation d'une vie à travers une matière quelconque. Donc la vie, c'est immatériel. C'est surtout dans l'hindouisme et dans le Vedanta qu'on en parle le mieux, je pense, avec la notion d'Atman. Et alors il faut savoir qu'Atman a presque une même racine commune que Spiritus. Hein. Spiritus, c'est un souffle. Et l'Atman, il y a cette idée aussi d'un. Donc c'est le soi, et il y a peut-être. Il y a plusieurs étymologies possibles, mais il y a peut-être une étymologie qui amènerait aussi cette idée de souffle, de pneuma aussi. On disait, les Grecs disaient aussi pneuma. Il y a une notion de souffle de vie, quelque chose d'immatériel.
On parle du souffle de Dieu.
Voilà.
Hein, la respiration de Dieu.
Voilà, c'est l'esprit, et cet esprit, ce souffle, il faut se représenter qu'il infuse tout, qu'il donne la vie à tout. Il va faire émerger la conscience, la matière. Donc on peut dire aussi qu'à partir de ce souffle, de cette vie, la conscience et la matière vont naître, vont se déployer, et si ce souffle disparaît, la matière, son pôle opposé, disparaît, et la conscience, inévitablement, parce que la conscience est tout simplement un intermédiaire, un état conscient, un état relationnel entre la vie et la matière.
Alors, est-ce que je peux juste lire une phrase de Madame Blavatsky que j'adore, qui donne cette définition et qui dit « Si l'on dit que l'esprit est la cause inexprimable, inexprimable et indéfinissable de l'être, l'énergie qui en émane, sa vie unique et sa source, la totalité des forces de tous les états de conscience et de toutes les formes. » Donc c'est tout.
Oui, c'est ça. On dit aussi, en Inde, on dit aussi que le prana, compris avec un... Dans son sens le plus large, le prana, c'est le souffle. Alors on a le prana qui est dans nos poumons, qui est dans nos méridiens, dans nos chakras, qui fait vivre notre corps énergétique et aussi cellulaire. Mais que ce prana s'exprime à tous les niveaux de la création. Et qu'en fait, ce prana, il est présent dans tout atome, dans toute particule. Et dans tout état de conscience, il y a un prana, il y a une vie qui habite tout état de conscience. Donc c'est ça en fait, c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit universel. Pythagore parlait de monade. Monade, mono, c'est ce qui est un. C'est ce qui est. On ne peut pas le diviser. Ce n'est pas la dualité. Donc, quand on a la conscience, on a toujours la dualité. Parce que la conscience peut être consciente vers l'extérieur, on a vu, vers la matière, ou vers l'intérieur, vers le monde d'elle-même, ou le monde de l'esprit, plus un niveau plus élevé. Mais dans la monade, il y a une notion d'unicité. Et on parle même de philosophie moniste. Parfois même vitaliste, c'est lorsque l'on considère que tout est un, qu'on sort des catégories matière, esprit, corps, conscience, etc. Et on dit, mais en tout cas, tout ça, c'est la vie.
Oui, ce qui y a l'un, donc l'esprit, c'est ce qui sous-tend tout l'univers existant,
oui.
Dans toutes ses manifestations, dans tout ce qui est visible, invisible.
Voilà, et la particularité de l'esprit, c'est qu'il peut prendre une forme matérielle, et là, à ce moment-là, on va dire que Dieu est immanent, donc il y a la création, mais quand la création disparaît, cette vie préexiste et continue d'exister. Et c'est là qu'on peut comprendre ce qu'est la vie. C'est pas quelque chose qui apparaît, qui disparaît. elle, quand on parle d'apparition, on parle forcément de l'espace, du temps, donc on parle forcément d'énergie matérielle, même très, très légère, mais on est toujours dans l'idée d'une manifestation, donc d'une conscience qui jaillit et autres. Mais l'esprit est en soi immatériel, donc il peut aussi, et il existe éternellement sans qu'il y ait d'univers.
Oui, c'est sans qu'il y ait une manifestation matérielle.
Il est autant immanent que transcendant.
Ouais. Donc, mettons, parce qu'on parle beaucoup du Big Bang et qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. Il y avait, on sait, il n'y avait probablement pas de temps, il n'y avait pas d'espace, mais l'esprit était là.
La monade unique
Il
était là, l'esprit
était là.
universel, l'esprit de Dieu, le souffle unique était là.
Ouais. Indépendamment de l'espace, du temps, de
Voilà.
l'univers.
Et ça, les Indiens en parlent très bien. Si les auditeurs veulent un petit peu lire des choses là-dessus, ils peuvent lire par exemple Vivekananda qui en parle, c'est un sage indien, un védantiste, donc c'est l'école, une haute école de philosophie indienne, et ils peuvent lire par exemple Jnana Yoga, où il parle très très bien de tous ces concepts et il explique très très bien ce qu'est l'atman, le soi, la monade, ce qui est indivisible, ce qui est là constamment. Et donc c'est un philosophe moniste qui considère que derrière les catégories que notre mental va créer, ok, il y a des consciences, il y a des formes, des matières, il y a des règnes et autres, mais tout ça c'est la manifestation à un niveau ou à un autre de la vie de Dieu, de la monade. Dans le système pythagoricien, on représentait la monade par un point. Donc on disait que ce point était partout. Et c'est vrai que partout, il y a un point, quelque part. Et que quand la dualité apparaissait, ça représentait l'âme, la dyade, il y avait deux points, donc on avait une ligne. Et quand la matière apparaît, on a trois points, on a le triangle. Donc on a le pôle matière. Après, on a quatre points, on a le carré, le cube, et on rentre après dans le volume, la surface et autres. Mais on a le point à la base.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme la trame d'un tissu. C'est quelque chose qui est caché, et qui est caché, qu'on ne voit pas, hein, et qui est présent partout, à la source de tout. C'est assez rassurant, ça.
Eh bien, rassurant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez difficile peut-être à se le représenter. Mais on peut le concevoir en même temps intuitivement, assez facilement. Si on dit qu'il y a la vie, alors on voit des formes, on voit qu'il y a un état de conscience dans un chat, dans une pierre, que si tout ça est vivant, c'est parce que cette vie l'habite et à ce moment-là, on peut se poser également la question, mais qu'est-ce qui se passe quand ça meurt? Donc il ne faut pas opposer vie à mort, je pense qu'il faut opposer naissance à mort. Parce que là, on est dans l'aspect matière. C'est-à-dire, il y a une matière qui naît, un corps, et puis ce corps meurt, mais la vie passe à travers. Et la vie ne meurt pas. Et c'est un petit peu un problème de notre langage où on a tendance à opposer vie
Oui,
et mort.
bah
C'est
oui, tout à
naissance et
fait.
mort.
On associe la vie à des êtres vivants,
Voilà.
alors que la vie, c'est quelque chose, c'est cet esprit qui sous-tend tout, qui est partout et qui était antérieur à la naissance de l'univers.
Alors ça peut aller très très loin parce que si la vie est partout, il n'y a pas de matière morte et donc les planètes, il y a une vie à un niveau ou à un autre. Peut-être qu'il y a des présences, ces fameux ovnis et extraterrestres, c'est tout simplement peut-être des entités qui vivent d'une façon peut-être immatérielle, dans des corps qu'on ne voit pas, mais il peut y avoir la vie partout dans l'univers, et la vie est partout. Et dire qu'une planète est morte, ça ne veut rien dire, parce que même les matériaux qui la composent sont porteurs de vie.
La vie dont on parle, à cet esprit, c'est ce qui donne le dessin à l'univers. C'est ce qui amène l'évolution, ce qui amène son existence.
Alors en effet, quand on touche à l'aspect vie, à l'aspect monade, on touche au dessein des choses. Et donc on parle aussi de volonté divine ou de volonté spirituelle.
Là, on rejoint la religion, parce que la volonté de Dieu, c'est connu dans les religions.
Oui, on rejoint. Il peut peut-être après, plus tard, se développer une forme de philosophie scientifique qui reconnaîtra qu'il y a une forme d'intelligence, et derrière cette intelligence, que l'intelligence n'essaie qu'une chose, c'est d'exprimer une
Une
volonté,
volonté
un
qui est
dessein.
là et qui est à la base de tout.
Donc, d'un point de vue ésotérique, on considère que l'homme est une triplicité lui-même et qu'il a une monade. Ça, c'est intéressant. Donc, on est une monade, une étincelle. Et cette monade, cette étincelle, elle peut prendre différents aspects. Elle peut prendre un des trois aspects. Elle possède les trois aspects qu'on a vus déjà précédemment avec le père, le fils, la mère. On pourrait le traduire en termes de monade par la volonté,
C'est l'amour.
l'amour ou l'intelligence.
Ouais.
Et on peut dire qu'une monade humaine, ésotériquement, est plus en lien avec un des trois visages de Dieu, un des trois aspects de la
Donc
divinité.
ça, par exemple, ça peut donner des gens qui sont plus sur l'aspect amour ou intelligence ou volonté.
Voilà. C'est ce qui explique fondamentalement la grande différence des gens. On est tous une parcelle de cet absolu. Alors, si on ne veut pas l'appeler Dieu, on l'appelle comme on veut, hein, le néant, la source, peu importe. Mais cet absolu prend trois visages. Et pour réintégrer cet absolu, nous disent les traditions ésotériques, religieuses ou occultistes, on passe par un de ces sentiers, par
On
un.
a un chemin,
On
oui,
a
un
un chemin.
sentier.
On réintègre l'absolu par la voie de la volonté, par la voie de l'amour ou par la voie de l'intelligence. Et là, on voit trois types d'êtres déjà différents, mais qui, dans l'absolu, il n'y a plus de trinité. On sort de ces dernières particularités.
Ça donne une destinée, ça, quand même, parce que si on est sur la voie de l'amour, de l'intelligence ou de la volonté, on va pas prendre le même chemin.
Non, et on peut juger et mal comprendre l'autre parce que on voit les gens à travers ce que l'on est. Et c'est très difficile, hein, même si on fait l'effort, c'est très difficile pour une monade d'amour de comprendre un Alexandre le Grand, par exemple, qui était une pure manifestation de cet aspect volonté.
Il n'est pas gentil, hein.
Voilà. Il n'est pas gentil, il est conquérant, il est puissant, il est pareil pour. Il y a plein d'exemples comme ça dans la vie, et c'est aussi difficile de comprendre celui qui va exprimer l'aspect intelligence jusque dans sa volonté profonde, on pourrait dire, hein. On pourrait dire qu'il y a trois formes de volonté, parce que la monade est toujours tout de même reliée à l'aspect volonté,
Oui, parce que la monade, elle va exprimer son
son
dessein.
dessein,
Et
sa
son
volonté.
dessein, ça peut être d'exprimer l'intelligence, la
Voilà, c'est
volonté ou
ça.
l'amour.
La volonté de pouvoir,
Hein?
la volonté d'aimer, la volonté de connaître, de savoir. Voilà, c'est trois formes de volonté différentes. Alors qu'au niveau de l'âme, l'âme exprime toujours une certaine quantité d'amour, une certaine qualité, pardon, plutôt d'amour. Mais il y a des âmes sur différentes énergies différentes, hein, des rayons, on dit. Mais il y a toujours l'aspect amour, l'aspect conscience et amour, c'est synonyme d'un point de vue ésotérique, hein. Et puis dans la matière, il peut. La matière au sens le plus large, on a des corps différents, mais on peut considérer que la personnalité, c'est une forme complète, c'est une matière complète, mentale, émotionnelle, physique. On avait vu que c'était composé au début d'émission de ces différents élémentaux, de ces différentes matières plus ou moins subtiles. Elle aussi, elle est à dominante, elle est plus sur l'aspect forme, intelligence, même si elle peut être qualifiée d'une façon très très différente.
On dit aussi que l'esprit, c'est la même chose que l'énergie. Parce que l'univers est énergie d'un point de vue scientifique. Hein. On a vu la matière, l'énergie, Einstein, tout ça, c'est la même chose. Et on dit aussi esprit et énergie, c'est la même chose.
Alors, à ce moment-là, il faudrait être précis et il faudrait expliquer que il y a différentes formes d'énergie et on dirait que l'énergie à l'état pur, ça serait l'esprit, que quand l'énergie devient conscience, c'est l'âme, et quand l'énergie devient matière, bah, c'est la manifestation du troisième aspect. Donc oui, on pourrait le dire comme ça. Mais je me méfie aussi de l'aspect énergie proprement dite, je sais pas, il y a d'énergie partout, hein, et dans un bout de bois, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie vraiment à tous les niveaux, mais il y a toujours, si on enlève les formes, il y a toujours une énergie pure et ça serait ça l'esprit, on pourrait dire. L'esprit n'a pas de forme, alors qu'il y a des énergies qui prennent des formes très très différentes. On a vu que la matière est le pôle opposé de l'esprit, ou sa manifestation la plus dense.
Le pôle opposé, tout en disant que La matière et l'esprit, c'était la même chose à des niveaux vibratoires différents, hein?
Alors, en gros, il y a des philosophies monistes qui vont bien expliquer que l'esprit devient conscience, devient matière, mais que c'est toujours l'esprit. Et il y a des philosophies nettement dualistes. On a ça en Inde, mais on a ça aussi dans différentes formes de philosophies religieuses ou non religieuses. On va dire qu'il y a une dualité. Et ça dépend des points de vue. Ça dépend de la manière dont on regarde les choses. On peut dire, mais non, c'est séparé. Il y a l'esprit et la matière d'un côté, il y a même une troisième chose. Ça, tout dépend du point de vue. On peut choisir de les voir séparés, ou on peut choisir de les voir comme une seule et même chose.
Mais avant d'être séparés, ils sont une même chose.
C'est un point de vue moniste de le dire. Le point de vue dualiste dira, non, non, ils sont séparés de toute éternité. Il y a des philosophies dualistes comme cela. Donc on peut faire un petit résumé peut-être. On a essayé d'aborder le mot esprit sous toutes ses formes. On a parlé de l'esprit ordinaire dans l'homme, son mental, sa pensée, voire ses sensations qui forment une personnalité globale. On a parlé des corps subtils qui restent, qu'on appelle les fantômes, les esprits désincarnés. On a parlé aussi des sortes de formes pensées dans l'inconscient collectif et des symboles qui pouvaient être chargés de ces formes pensées. Puis on a commencé à parler aussi de la triplicité, esprit, âme, corps, de bien définir les trois, la différence, et en même temps, là on a conclu en disant que d'un point de vue moniste, dans l'absolu, ces trois énergies, ces trois aspects du moins, sont une seule et même chose, et que c'est l'esprit en tant que tel, le un, qui engendre le 2, la conscience, ou 3, la matière. Voilà, je pense que on a essayé, en tout cas dans cette émission, de présenter le vocable esprit. On essaiera un petit peu dans chaque émission d'aborder un aspect, un concept de la philosophie. Et on essaiera de l'étudier pareillement dans son sens le plus large, et puis après on essaiera de voir dans son sens le plus métaphysique la signification que le vocable, le concept peut revêtir.
Moi, je retiens de cette discussion sur l'esprit, c'est que derrière la matière, ou avant la matière, ou sous la matière, dans la matière, il y a autre chose qui finalement est à la source de tout et qui n'est pas forcément reconnue par les écoles scientifiques, hein. De même, les écoles religieuses s'en rapprochent un petit peu, mais qu'il y a vraiment considérer que l'univers est un tout et pas simplement des petits bouts suivant le point de vue que l'on peut avoir soi personnellement.
Oui, c'est vraiment fondamental. En tout cas, quand on parle de sagesse ancienne, forcément, la sagesse ancienne prend position à ce niveau-là. Elle n'est pas matérialiste, elle reconnaît la réalité de la matière, son importance, mais forcément, elle est, on pourrait dire, spiritualiste ou du moins synthétique. Elle essaye de prendre en compte le point de vue spiritualiste, le point de vue matérialiste, et de voir que ces deux facettes, ou deux pièces, deux facettes d'une même pièce, pardon, deux points de vue différents, et qu'il y a une forme de troisième point de vue qui peut les synthétiser et les articuler entre eux.
Je pense qu'on peut dire aussi que, par exemple, si on dit la Terre, bon, il y a un esprit qui anime la Terre, hein, le logos planétaire, que cet esprit est sur l'aspect volonté, hein, puisqu'on dit esprit, monade, volonté. Donc, il y a un dessein de l'être qui anime la Terre et que nous sommes en quelque sorte supposés réaliser ce dessein. Nous sommes une petite partie, chacun d'entre nous, de ce dessein.
Oui, l'humanité forme la conscience planétaire quelque part, et qu'il y a cette matière. On parle d'entité planétaire d'ailleurs. Ça serait la somme de toutes ces vies, ces élémentaux, physiques, émotionnels, mentaux, toutes ces forces dont on a parlé, qui involuent, qu'on a appelé Satan, qu'on a appelé Lucifer, de différents noms. Mais Satan, c'est l'adversaire, c'est ce qui est le pôle opposé. Donc il y a un grand esprit planétaire, une matière planétaire, et nous, on serait en quelque sorte un mélange des deux. Et une conscience qui est le point d'articulation de ces deux mondes.
Moi, là où ça m'amène, parce qu'on dit toujours bah, quel est le but de ma vie, quel est le sens de ma vie, est-ce que je dois agir bien, mal, est-ce que je n'agis que pour moi-même, est-ce que j'ai un sens? Mais si on ne met pas sa vie en ligne avec le dessin de ce logos planétaire, de cet esprit planétaire, on est à côté de ses chaussures, là. On est comme un organe malade, en fait, d'une certaine façon. Ça veut dire que d'une certaine façon, ça donne un sens et une orientation à sa vie.
Si on sert l'humanité, je pense que on sert convenablement ce dessein. Et que sans même accepter ces grandes idées métaphysiques, si quand on sert le bien commun, donc l'humanité et également les autres règnes qui évoluent sur Terre, forcément on suit un dessein qui est juste.
Oui. Mais dans ces concepts ésotéristes, là, on explique pourquoi il faut faire le bien. C'est parce que ça fait partie d'un dessein divin et que si on ne suit pas ce dessein divin, on va dans le sens, on rame en sens contraire du courant.
Oui, mais pour des gens athées ou agnostiques qui pourraient nous écouter, ils peuvent ne pas avoir besoin d'accepter ces formes de concepts, ou même ils peuvent même avoir une nette envie de les refuser. Mais l'important, c'est que au moins on est tous membres de l'humanité et qu'on a à vivre dignement entre nous et qu'il y a une forme de philosophie, d'esprit, juste des choses, et ça, on peut tous se retrouver là-dedans. Eh bien, merci Dominique pour cette première émission.
C'était une première émission, je suis très contente. Donc, nous nous retrouvons le mois prochain. Cette émission s'achève. Nous espérons avoir apporté une petite lueur sur une des notions les plus indéfinissables qui soit l'esprit. Vous pouvez entendre cette émission et d'autres sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Au revoir et bonne soirée sur IDFM.
Merci, au revoir.
Thank you.